Je vous invite à vous tourner avec moi dans le deuxième livre des rois. C'est l'Ancien Testament. C'est à la page 392, si vous utilisez une des Bibles qui sont à votre disposition ici. Deuxième livre des rois, chapitre 14, verset 23. Je suis en train de finir la lecture d'un livre que je recommande à tous et qui s'appelle, c'est un livre qui est pour l'instant écrit en anglais, je pense qu'il va, s'il ne l'est pas encore, il va être traduit en français, qui s'appelle 60, en français je traduis, 60 millions de Français ne peuvent pas tous avoir tort. Et c'est une étude sur notre société française, faite par deux Canadiens qui sont donc de culture nord-américaine et qui ont vécu en France et qui ont, avec des yeux de journalistes et de sociologues, regardé notre société et qui essayent d'expliquer pourquoi nous sommes tels que nous sommes. Et c'est vraiment intéressant, ils parlent de sujets dont on ne vous parle jamais à l'école. On s'arrête, nous, en 1950 à peu près, après la Deuxième Guerre mondiale. On ne parle pas de ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Mais ce qui est frappant, c'est qu'en fait, pour expliquer la personnalité, entre guillemets, si tant est qu'il existe une personnalité du français moyen, c'est qu'il faut faire référence à l'histoire de France. On est un petit pays par rapport à d'autres pays, mais on a une place encore aujourd'hui, au moins dans nos cœurs, dans nos esprits. On pense qu'on est des personnages très importants dans le monde. Ça peut sembler comme de l'arrogance, mais les auteurs expliquent qu'en fait c'est dû à notre passé, à notre histoire. Et quelques personnes l'ont déjà lu. Je sais que l'INSEE l'a lu. Maintenant, elle comprend tout des Français. Mais on voit l'influence de l'histoire sur le présent. On aime bien dire que on est le fruit à la limite de notre éducation, mais on a tendance à oublier qu'on est ancré dans l'histoire, qu'on n'est pas là par hasard, et que pour comprendre le présent et pouvoir prévoir le futur ou s'attendre au futur, il faut connaître le passé. C'est pareil dans la Bible. La Bible nous dit que ces choses, l'Ancien Testament, ont été écrites pour notre instruction, pas pour ceux qui vivaient à l'époque, déjà c'était bien pour eux, mais pour nous, nous dit Paul, sur qui la fin des temps est arrivée. Alors Paul, c'était déjà au début de notre ère chrétienne. Les événements dont nous parlons, c'était 750 ans avant notre ère chrétienne. Mais on voit en fait que le cœur de l'homme, s'il n'est pas touché par Dieu, il ne change pas. Il y a toujours les mêmes problèmes au fond de nos cœurs. Et j'aime bien le constat qui dit qu'en fait, aujourd'hui encore, au cœur de tout problème, il y a un problème dans le cœur. On peut blâmer l'économie, on peut blâmer des tas de choses pour la situation présente, mais notre problème, il n'est pas économique. Notre problème, il ne vient pas de l'éducation qui devrait être adaptée. Notre problème, il vient de notre cœur. Le problème de nos sociétés modernes, c'est un problème avant tout spirituel, c'est un problème moral. Et on va le voir avec la fin rapide du royaume d'Israël, le royaume du Nord. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là ces derniers temps, on est en train de voir donc l'histoire des deux royaumes qui résultent de la division du royaume de David et de Salomon, avec le royaume d'Israël au Nord, ayant pour capitale la Samarie, qui regroupait 10 tribus d'Israël, et au Sud, le royaume de Juda, avec pour capitale Jérusalem, qui regroupait les tribus de Juda et de Benjamin. Donc c'est une longue histoire, encore une fois, mais on va voir aujourd'hui quelques-uns des rois, notamment du royaume d'Israël, le royaume du Nord, qui va être emmené en captivité par l'Empire assyrien en 721-722 avant Jésus-Christ. Et ça va être la fin de ce royaume du Nord. Le royaume du Sud, le royaume de Juda, va lui durer un peu plus longtemps. C'est en 586 qu'ils vont être emmenés à Babylone par les Babyloniens, qu'ils vont être déportés. Et s'ils ont duré un peu plus longtemps en tant que nation indépendante, c'est à cause de l'influence morale de quelques-uns des personnages, des rois, qui les ont gouvernés et dont on va aussi parler. Donc le deuxième livre des rois, il parle des rois d'Israël du Nord et aussi des rois de Juda du Sud. Et en fait, c'est intéressant parce que certains pensaient que ces récits étaient des récits un peu mythologiques, un peu au même titre qu'on parle de la mythologie grecque, que l'on parle dans bien même des religions, de choses qui sont plus ou moins allégoriques. En fait, l'archéologie a confirmé l'existence de ces rois. L'archéologie a confirmé ces récits historiques. Ce que nous lisons, ce n'est pas des élucubrations, ce sont des récits historiques. Il y a le livre des rois, premier et deuxième livre de rois, et puis il y a le premier et deuxième livre des chroniques. Souvent, lorsque vous lisez l'histoire de l'Ancien Testament, vous voyez que l'auteur donne des informations et puis termine en disant « Mais de toute façon, vous pouvez aller voir dans l'autre livre qui a été écrit, dans le livre des chroniques des rois de Juda ou dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Nous avons dans le livre des chroniques la chronique des rois de Juda, mais pas celle des rois d'Israël. Donc certaines des informations qui nous sont suggéré, nous n'avons pas plus de détails. Par contre, pour tout ce qui concerne Juda, on peut aller voir le livre des chroniques et trouver des fois plus d'informations, plus de détails. Voilà, on va regarder le roi d'Israël, Jéroboam le second. On va lire, on ne va peut-être pas lire tous les passages parce que c'est répétitif et on va essayer d'avancer parmi ces rois, faire un peu le tour de ces rois. Et encore une fois, je sais que vous allez peut-être décrocher en disant « Mais à quoi bon ?» Je veux essayer de vous montrer en quoi ces exemples sont pertinents pour nous aujourd'hui. La 15e année d'Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, régna comme roi d'Israël à Samarie. Il régna 41 ans. Donc c'est un roi d'Israël du Nord, capitale Samarie. Il a un long règne, 41 ans. Et les règnes sont rapportés en fonction des règnes des autres rois. Donc ça permet, avec ces différents récits, de reconstituer une chronologie des rois. C'est page 392 dans la Bible à la colombe. Ce roi Jéroboam, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne s'écarta d'aucun des péchés que Jéroboam, fils de Nébat, avait fait commettre à Israël. On a dit, en commentant ces récits de règne, que Dieu a une façon très, très succincte de cataloguer l'influence, la vie d'une personne. C'est est-ce que ce que vous faites est bien à ses yeux ? Ou est-ce que ce que vous faites, ou bien est-ce que ce que vous faites est-il mal vis-à-vis de Dieu? On a vu aussi que David, malgré ses péchés, il est considéré comme un homme selon le cœur de Dieu. Et on a dit que la différence avec ces autres rois qui ont commis des péchés terribles aussi, c'est que lui se repentait. Il avait un sincère regret pour ce qu'il avait fait et demandait pardon à Dieu. Et ça, c'est la clé d'une vie proche de Dieu. Ce n'est pas d'être parfait, on aimerait l'être, on le souhaiterait, mais la Bible nous informe, nous met tout de suite en garde. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des grands menteurs et nous commettons des péchés. Dieu n'est pas dupe, il sait que nous sommes faits de chair et de sang, que la chair est faible, que l'esprit veut vivre selon Dieu en nous. Mais le remède, c'est pas d'essayer de toutes nos forces de vivre une vie parfaite. Le remède, c'est d'être proche de Dieu et de lui remettre, lui demander pardon pour nos fautes et nos péchés. Et la Bible nous affirme que Dieu est fidèle, que lorsqu'il entend nos demandes de pardon, nos prières faites au nom de Jésus-Christ, il peut nous pardonner seulement si nous invoquons Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut pas se renier. Le péché doit être puni, et le péché, il l'a puni par Jésus-Christ, en laissant mourir Jésus-Christ à la croix pour nos péchés. Ce n'est pas le bon Père Noël qui dit « Oh, c'est pas grave, tout le monde dérape un peu, c'est bon, vous êtes sûr, vous avez la moyenne, vous pouvez entrer. » Non, il veut de nous la perfection. Et ça peut être décourageant, sauf si l'on réalise que cette perfection, elle est en Christ. Et que nous ne sommes pas jugés sur nos mérites, mais nous sommes jugés sur les mérites de celui qui est parfait, de celui qui est mort pour nos péchés, qui a été ressuscité, preuve que les péchés ont été pardonnés en lui. Et donc cet homme, il avait fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne s'est écarté d'aucun des péchés que Jéroboam le premier, lui c'était Jéroboam II on pourrait dire, celui qui avait conduit à la division du royaume de Salomon en deux parties et qui était le fils de Nébat, il avait fait commettre des péchés à Israël. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait installé des autels à Bethel et à Dan, des veaux d'or, pour que les Israélites n'aient pas à aller à Jérusalem, au temple, pour adorer le vrai Dieu. Et il leur faisait en quelque sorte adorer le vrai Dieu d'une fausse façon. Et c'était en fait de l'idolâtrie. Et s'il est une chose dont Dieu a horreur, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, on pense aux statues, aux païens qui s'inclinent devant des statuettes, qui font brûler des sacrifices, etc. Non, l'idolâtrie, c'est tout ce qui prend la place qui doit revenir à Dieu, le vrai Dieu, créateur du ciel et de l'univers. Vous êtes peut-être arrivé dans votre travail de faire quelque chose et votre patron ou une autre personne s'en prend les mérites. Et auprès des supérieurs de la maison, fait croire qu'en fait c'est eux qui ont fait le travail. C'est eux qui ont eu l'idée géniale qui vous permet de booster les ventes. Et vous avez sans doute, dans le fond de votre cœur, éprouvé un drôle de sentiment. Un sentiment de colère, un sentiment d'indignation, peut-être un sentiment de vengeance, si ce n'est pas de la colère qui s'est manifestée tout de suite, qui vous a peut-être valu des ennuis. Mais imaginez le Dieu qui a créé tout l'univers, qui a créé les merveilles que nous sommes, les êtres infiniment merveilleux que chacun de vous est, avec un système de défense immunitaire, un système de régénération de nos cellules, un système à la surface du globe qui permet d'avoir un cycle de l'eau. Et puis que des bouts de bois taillés pour les païens reçoivent l'adoration, reçoivent la gloire pour ce qu'ils n'ont pas fait. Eux qui sont des créatures, des créations, reçoivent la gloire à celui qui mérite l'adoration. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et ces sentiments d'indignation que vous ressentez lorsque quelqu'un vous vole la paternité, l'honneur de quelque chose, Dieu les ressent encore plus. Mais Dieu, contrairement à nous, il se contrôle, il est plein d'amour. Et il nous dit, venez m'adorer, adorez mon Fils et adorez celui qui connaît mon Fils, celui qui vient à mon Fils, il m'adore moi. Jésus est Dieu, il est Dieu le Fils, créateur du ciel et de la terre aussi, il est l'agent de création, le Dieu tout-puissant, unique, en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc ce Jéroboam, il est dit qu'il était le fils de Nébat. Et c'est une expression qui revient chaque fois qu'il est fait allusion à ce premier roi Jéroboam. Et on peut se demander pourquoi c'est ainsi mentionné. Je pense que c'est aussi une référence, c'est une allusion à l'importance d'un père, d'un bon père ou d'un mauvais père. On verra et on a déjà vu que Dieu peut utiliser des enfants de bonne façon, même si leur père était mauvais. Et ça, c'est peut-être un soulagement pour certains d'entre nous. Et qu'à l'inverse, des parents peuvent donner naissance à des fils ou à des filles qui ne vont pas glorifier Dieu. Mais il n'empêche, votre influence en tant que parent, elle est primordiale. La Bible nous dit d'élever nos enfants dans les voies de Dieu, que même s'ils s'en écartent, ils pourront y revenir parce que vous aurez donné un sentiment de l'existence de Dieu. Votre vie, surtout si elle est honnête, si elle n'est pas hypocrite, elle va être un témoignage qui va durer dans la vie de vos enfants, même dans leurs souvenirs. C'est valable pour les parents, c'est encore valable aussi pour les grands-parents. L'influence d'une grand-mère qui prie pour un enfant, c'est quelque chose de primordial. Beaucoup de personnes, je suis sûr, pourraient témoigner qu'en fait, c'est la maman, la grand-mère qui priait pour l'enfant, pour le petit-enfant. Ce fils, ce Jéroboam II, il est dit qu'il a rétabli la frontière d'Israël depuis l'entrée de Hamat jusqu'à la mer de la Araba. C'est la mer Rouge, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amittai de Gath-Hépher. C'est intéressant, quand on lit la Bible, et je vous invite à la lire aussi, chaque jour, il y a des plans de lecture, il y a des tas de ressources disponibles en ligne, il y en a certaines sur notre site internet, qui vous permettent d'avancer dans plusieurs passages à la fois et de faire des rapprochements que vous ne feriez peut-être pas si vous lisez seulement tout d'un trait. Et ce prophète Jonas, c'est en fait le prophète Jonas qui avait été avalé par le grand poisson parce qu'il ne voulait pas aller annoncer le pardon de Dieu aux habitants de la ville d'Assyrie, Ninive. Et c'est le seul autre endroit, par le livre qui porte son nom, où il est question du prophète Jonas. Mais là encore, c'est une preuve de son historicité, de son authenticité historique. C'est le même personnage. Et c'est intéressant parce que lorsque on commence à aborder cette époque de l'histoire des rois, on va avoir des prophètes comme le prophète Osée, comme le prophète Ésaïe, le prophète Amos, qui avaient un ministère à cette époque et qui faisaient une intercession, qui donnaient des paroles de Dieu pour essayer de reprendre les gens à cette époque pour leur dire « Ne faites pas ceci, le Seigneur va être obligé de vous punir si vous continuez dans ses voies. » Et malgré ces avertissements, malgré ces instructions, on va voir qu'ils ont, une cinquantaine d'années plus tard, ils ont été éradiqués de l'histoire, ils ont été emmenés en Assyrie, par un peuple terriblement cruel. Et Dieu, pourtant, tout ce temps, essayait de les avertir. Dieu continue de nous avertir. Il continue de m'avertir, il continue de vous avertir par sa parole, par les frères, par les sœurs, par la communion fraternelle, par son Esprit Saint qui vous montre que vous péchez, qui vous rappelle que ce que vous faites n'est pas plaisant à l'Éternel. Et on voit que ce mauvais roi qui a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel, Dieu l'a utilisé pour faire de bonnes choses. Il a repris du territoire, il a pratiquement rétabli le royaume tel qu'il était au moment du roi Salomon. Il a repris du territoire. Pourquoi ? Pas parce que c'était un bon roi, pas parce qu'il était moral, qu'il était spirituel. Non, verset 26, car l'Éternel avait vu la très cruelle humiliation d'Israël. Il n'y avait plus personne qu'on retienne et plus personne qu'on relâche. Nul ne venait au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point parlé d'effacer le nom d'Israël de sous le ciel. Il les sauva par la main de Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actes, verset 28, de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, sa vaillance dans ses combats et comment il ramena sous la domination d'Israël Damas et Hamath qui avaient appartenu à Juda. Cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël qui n'est pas à notre disposition aujourd'hui. Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël. Son fils Zacharie régna à sa place. C'est pas à cause des mérites de Jéroboam II que l'Éternel lui a permis de reprendre du territoire, de libérer un peu le peuple de l'humiliation d'Israël. C'est parce que Dieu avait vu la souffrance d'Israël, son humiliation. Et nul ne venait au secours d'Israël. Certains disent aujourd'hui, Israël, les Juifs ont été remplacés par l'Église. C'est un mensonge qui vient du trou de l'enfer. Dieu a toujours un plan pour son peuple. Il a choisi ce peuple, non pas à cause de ses mérites, mais dans sa souveraineté. Si je peux me permettre une illustration qui peut choquer certains, mais qui peut aussi permettre de comprendre un peu que Dieu a choisi un peuple pour venir s'incarner dans la race humaine, c'est que Dieu devait atterrir quelque part sur la terre. S'il avait décidé de venir s'incarner en la personne de Jésus, il lui a fallu préparer un terrain d'atterrissage. Si vous êtes dans un avion, imaginez qu'il y ait des bombes qui explosent sur Charles de Gaulle, l'aéroport où vous deviez atterrir. Il va falloir au pilote trouver un endroit d'atterrissage. Il va choisir un aéroport qui est prêt à le recevoir. Un aéroport dont la piste est assez longue pour l'avion que vous pilotez. Un aérodrome où les gens sont prêts à recevoir votre avion. Un aéroport où il n'y a pas de brouillard ou de conditions météo défavorables. Il va choisir un lieu. Dieu a choisi le peuple d'Israël. Il l'a préparé. Il a choisi une personne, Abraham, et à partir de lui, il a promis une descendance, la descendance messianique, le Messie qui est venu du peuple juif, qui allait sauver non seulement les Juifs, mais toutes les nations de la terre. Ce n'était pas une question de favoritisme, c'était une question de souveraineté divine. Il aurait pu, je crois, choisir les Corses. Il aurait pu choisir les Bretons. Il aurait pu choisir les Bavarois. Il aurait pu choisir les New-Yorkais. Il a choisi le peuple juif et il lui a donné les oracles. Il lui a confié des prophètes. l'Ancien et le Nouveau Testament nous sont parvenus par les Juifs. Le seul auteur non juif, c'est peut-être Luc, qui était d'origine grecque, Mais nous avons un tribut extraordinaire vis-à-vis des Juifs. L'antisémitisme n'est pas permis parmi les enfants de Dieu. Alors, tout de suite un bémol, ça ne veut pas dire que si on est pour la Bible, la vérité biblique, on va soutenir toutes les actions du gouvernement israélien d'aujourd'hui. Mais de céder à l'antisémitisme actuel, en France notamment, c'est un péché qui vient du diable. Le diable s'est opposé de toute éternité parce qu'il connaissait les plans de Dieu au peuple juif. Il a essayé de les faire rester en Égypte. Il a essayé de les faire détruire. À l'époque de Jésus, le roi Hérode a fait massacrer les petits-enfants juifs. C'est le plan de Satan de détruire le témoignage du peuple juif. Et il suffit de lire la lettre de Paul aux Romains, et à moins d'avoir des œillères et d'être victime d'un antisémitisme ambiant, pour dire que Dieu en a fini avec son peuple. Dieu n'a pas fini avec le peuple d'Israël, il nous promet dans son écriture qu'il y aura un reste et qu'il va d'abord sauver les Juifs, puis les Grecs, c'est-à-dire les non-Juifs, les païens. Et nous pouvons remercier Dieu pour le peuple juif. La Bible nous encourage à prier pour Jérusalem, la Bible nous encourage à soutenir le peuple juif qui cherche son sauveur. Et parce qu'il a de bons plans pour son peuple, il a cherché à les soutenir, à les aider, et il a utilisé ce roi mauvais. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Il peut utiliser des circonstances qui nous paraissent contraires, il peut utiliser des circonstances qui nous paraissent folles, mais il reste souverain et sa volonté, il l'accomplit, que vous le vouliez ou non, que je le veuille ou non. Et s'il utilise des bons, il utilise des mauvais pour accomplir sa volonté. Vous ne pouvez rien, nous ne pouvons rien contre la volonté de Dieu. Nous pouvons nous émouvoir, nous pouvons avoir peur, nous dire telle menace, l'Église est menacée, Jésus bâtit son Église et rien ne pourra s'y opposer. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Vous pouvez être détendu en tant que chrétien, vous n'avez pas à céder à la peur de l'islam, la peur du bouddhisme, la peur de l'économie. Vous devez être plein de paix parce que vous avez un Dieu qui vous aime et qui vous dit « faites-moi confiance ». Et votre confiance, elle va toucher les gens qui sont dans la peur, les gens qui sont dans la panique, lorsqu'ils voient le CAC 40 dégringoler, lorsqu'ils voient les crises économiques, lorsqu'ils voient les attentats, lorsqu'ils voient la montée des intégrismes de tout poil. Vous devez être des gens pleins de paix, d'amour pour les autres. Parce que ce qu'il vous a révélé, ce n'est pas pour vous le gardiez égoïstement, mais c'est pour le partager avec les autres. Leur dire qu'il y a un Dieu qui les aime, un Dieu qui veut les sauver, et un Dieu qui est tout puissant et qui va accomplir ses desseins. Amen. Une mise en garde aussi pour nous. Des fois, on pense que parce que nous avons la paix dans nos vies, parce que les choses vont relativement bien, parce que nos revenus sont réguliers, que nous ne sommes pas dans la peur, dans la panique, on se dit, c'est parce que j'ai une bonne relation avec Dieu. Si Dieu me bénit ainsi, c'est qu'il est content de moi. Attention, votre statut devant Dieu, ce n'est pas en regardant votre compte en banque que vous devez le déterminer. Ce n'est pas en vous baignant dans la piscine de votre villa que vous devez vous en gargariser. C'est à genoux devant Dieu, dans le silence où sa petite voix, la voix du Saint-Esprit peut vous parler et peut vous reprendre. Ne pensez pas parce que l'Église grandit, que ça veut dire que tout est bien pour le meilleur des mondes, que Dieu est content de chacun de nous, que Dieu est content de la direction de l'Église. Non. Dieu peut bénir en dépit. Dieu veut sauver. Et il peut utiliser des gens qui ne lui font pas plaisir pour le faire. Il peut utiliser des gens qui commettent des péchés. Dieu merci. Sinon, il n'aurait personne. On reprochait à Jésus d'aller manger avec les pécheurs, de faire la fête. Il aurait dû répondre, heureusement que je pouvais faire ça, sinon j'aurais pu faire la fête avec personne. Il aurait surtout pas fait la fête avec les hypocrites qui prétendaient être des gens méritants devant Dieu. Ça, c'est Jéroboam le second. Et puis, c'est son fils Zacharie qui lui a succédé. On va passer ensuite à un roi de Juda. Jéroboam, il a régné 41 ans. On a dit déjà, en Israël, il n'y a pas eu un seul bon roi. C'est facile. C'est peut-être pour ça que les chroniques des rois d'Israël ne nous ont pas été transmises, parce qu'on aurait été dégoûtés, on aurait été déprimés peut-être. Mais très vite, les choses vont s'accélérer. Et on va voir la mort, l'agonie du royaume d'Israël, le royaume du Nord, avec une succession rapide de rois. Il y en a même un qui n'a régné qu'un mois. La palme, en fait, revient à Zimri. Zimri, c'était le père d'Achab, qui s'était marié à Jézabel. Lui, il avait le pompon, comme on dit. Il avait régné une semaine. Ah, il avait fait fort. Ça nous rappelle ce brave pape Jean-Paul Ier, qui était mort au bout de quelques jours. Je ne sais pas s'il était mort le lendemain ou une semaine après, avant de laisser la place à Jean-Paul II. Mais on va voir que, au fur et à mesure que la fin approche, les choses se précipitent. À Juda, le roi dont nous allons parler un peu, Azaria, ou qui était aussi connu sous le nom du roi Ozias, et dont Ésaïe a parlé beaucoup, lui a régné 52 ans. Ça stabilise les choses. J'étais émerveillé de voir encore la reine Élisabeth annoncer que les Jeux Olympiques de Londres, la troisième fois qu'ils les ont là-bas, étaient ouverts. Je vous l'accorde, elle manquait d'enthousiasme. Si on l'avait fait un casting pour trouver quelqu'un qui annonce l'ouverture des Jeux, on aurait pris quelqu'un d'autre. Mais ça fait 60 ans qu'elle règne à Londres. Alors on sait que c'est pas elle qui a le vrai pouvoir. Mais en même temps, elle est quelque chose que les Français envient terriblement. C'est la pompe républicaine, les gardes républicains, les chevaux qu'on entretient aux frais de l'État, les cavaliers, les costumes, les ors, les beaux costumes, les drapeaux, l'arc de triomphe, tout ça. C'est la nostalgie du peuple français pour sa royauté. Quelque part, on aime bien avoir quelqu'un à glorifier, à honorer. Et dans le cas de la reine Élisabeth, une chose est sûre, c'est que si ses descendants se sont montrés indignes, bien souvent, du respect de leur population, elle a toujours été quelqu'un de très discrète, certes, mais quelqu'un qui présente l'apparence au moins de la respectabilité, de la stabilité, et quelqu'un qui force le respect. Et c'est pour ça qu'elle a encore ouvert des Jeux Olympiques. Une chose qu'on va voir et que j'aimerais souligner ici, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à faire fi de la moralité des hommes publics. Souvent, on fait fi, c'est-à-dire qu'on néglige ou qu'on oublie ou qu'on dépasse, qu'on, qu'on, qu'on n'accorde pas une importance clé à la moralité des hommes publics, des hommes politiques, des hommes, des journalistes, des artistes. Peut-être parce que maintenant, on n'a malheureusement plus le choix. Mais je vous invite, encore une fois, à donner vos votes pour des gens qui ne sont peut-être pas parfaits ou des exemples de moralité dans tous les domaines. Donnez au moins votre vote à des gens qui s'opposent à ce à quoi Dieu s'oppose. Ne votez pas pour des gens qui veulent faciliter l'avortement. Ne votez pas pour des gens qui veulent supprimer le mariage, qui veulent permettre aux parents homosexuels d'adopter des enfants. Ça vole complètement, contrairement à la moralité la plus élémentaire que vous avez apprise à l'école. C'est un défi à Dieu. C'est un défi à la moralité biblique, aux valeurs judéo-chrétiennes dont les gens se moquent aujourd'hui et qui pourtant sont à la base de nos systèmes politiques, du fait qu'on puisse vivre ensemble. S'il n'y a pas ces valeurs judéo-chrétiennes, il n'y a plus de société occidentale. Ne l'oublions pas et ne votons pas pour des gens qui méprisent ces valeurs. Votons pour des gens qui respectent au moins en partie ces valeurs. On a maintenant, on n'a plus une première dame de France, on a une première copine de France. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on attend de ces gens qui ne sont pas capables de respecter les lois les plus élémentaires de la morale? On dit tout ce qu'on voudra, mais on lit l'histoire de France même récente. Et je lisais dans ce livre sur 60 millions de Français ne peuvent pas avoir tort. On voit les personnes qui ont une influence durable sur la société française. C'est pas les Mitterrand qui entretenaient une maîtresse à l'Élysée. C'était les Charles de Gaulle dont on se moquait de la dévotion à sa femme parce qu'elle était moche, elle était pas remarquable. Mais c'était un homme qui avait des valeurs basées sur la Bible. Et tant que l'on n'entend pas ces messages dans les églises de France, on ne peut pas s'étonner que le monde, aujourd'hui en France, il prenne la priorité et qu'on ait du n'importe quoi, qu'on ait des scandales à tour de bras. Et c'est ce qui se passe, et c'est pourquoi l'histoire est rapportée ici. C'est pour nous montrer que des rois qui se moquent de Dieu, ils amènent le malheur des peuples. Le roi Azaria, il a régné 52 ans. Le nom de sa mère était Yekoliaou de Jérusalem. Là encore, pourquoi est-ce qu'on souligne le nom de sa mère? C'est pour dire qu'il avait une mère, qu'on la connaissait, qu'elle était connue, qu'elle avait élevé ses enfants dans la justice de Dieu. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel en tout point, comme l'avait fait son père Amatsia. Malheureusement, encore une fois, il y a ce « toutefois ». Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. Lui ne se livrait pas à l'idolâtrie, c'est formidable. Mais il n'a pas eu l'influence nécessaire, il n'a pas eu le courage, il n'a pas eu le succès d'éliminer l'idolâtrie. Et puis, dans le livre des Chroniques, on nous rappelle que son succès l'a enorgueilli. J'ai bien aimé, la semaine dernière, j'ai parlé de l'humilité, que l'orgueil précède la chute. Et j'ai fait part de la petite anecdote où je rappelais que j'étais, par accident, entre guillemets, tombé la tête la première dans une poubelle qui sentait mauvais, une grande poubelle, et que ça m'avait rappelé tout de suite ce proverbe 16-18 qui dit que l'orgueil précède la chute. Et que ça m'avait conduit à me dire, mais est-ce que j'ai de l'orgueil dans mon cœur? Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai entendu parler du sermon de la semaine dernière. On n'a pas parlé des rois, mais on a parlé de Pierre qui est tombé la tête la première dans une poubelle parce qu'il avait de l'orgueil dans son cœur. Et je remercie le Seigneur que ça vous a frappé. Parce que la prochaine fois que vous avez de l'orgueil, que vous dites « mais c'est grâce à mon travail que j'ai eu cette promotion, c'est grâce à mon sérieux dans mes études que j'ai réussi l'examen », vous direz « ah, attention, la poubelle ». Et Dieu peut nous faire passer dans les oubliettes de l'histoire, dans les poubelles de l'histoire, si ce n'était ces passages qui nous rappellent le péché des gens. Ozias, Azaria, aussi, appelé Azaria aussi, lui, il a pensé, parce qu'il avait du succès, que tout allait bien, il s'est enorgueilli. Et il a présumé de ses prérogatives, il a voulu servir comme un prêtre, alors qu'il n'était qu'un roi. La prêtrise, le royaume, le règne et la prophétie n'appartiennent qu'à un seul. Il y en a eu dans toute l'histoire, il y en a un seul qui est à la fois prophète, roi et Seigneur. Et c'est Jésus-Christ. Prêtre, roi, prophète et prêtre, Jésus. Il n'y en a qu'un seul. Parce qu'il est parfait, il est Dieu lui-même. Et les autres, ils doivent se contenter de fonctionner dans les dons, dans les prérogatives que Dieu vous donne. Nous avons vu l'histoire de ce roi qui pensant qu'il était, parce qu'il avait battu les Édomites, avait voulu s'opposer. C'était le roi Amatsia, il avait voulu s'opposer au roi d'Israël en lui disant « Maintenant je suis fort, viens te battre contre moi ». Et lui avait été battu à plate couture, ça c'était le chapitre 14. Le roi Ozias, qui était un bon roi dans l'ensemble, il a commis ce péché d'orgueil, il a voulu servir comme un prêtre alors que c'était interdit. Les prêtres ont essayé de l'en empêcher, de lui dire « Non, c'est pas quelque chose que tu dois faire, tu vas être puni si tu fais ça ». Et Dieu l'a frappé de la lèpre. Il est resté isolé et c'est son fils Yotam qui a gouverné à sa suite. Petit épisode brièvement rappelé mais qui est longuement décrit dans le 2 Chroniques 26. Et je vous invite à lire cet autre passage si vous souhaitez vous imprégner de ce qui se passait à Juda à ce moment-là. Et puis on revient à Israël, on va voir... cinq rois en brève succession, on va pas tous les étudier en détail. Souvent on peut trouver des informations dans les prophètes qui intervenaient à cette époque, dans le prophète Amos, le prophète Osée et le prophète Ésaïe. Mais lisons verset 8. Il est question maintenant du roi Zacharie, qui est arrivé la 38e année du roi de Juda, qui était Azaria ou Ozias. Et lui, il a fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a continué dans les péchés de Jéroboam, le fils de Nébat. Vous vous rappelez l'idolâtrie, tout ce qui prend la première place qui devrait revenir à Dieu. Et il était tellement mauvais qu'en fait il a régné que 6 mois parce qu'il y a une conspiration. Il y a un dénommé Shalom, ça rassemble à Salomon en hébreu, c'est le même mot de paix, mais ce n'était pas un homme de paix. Il a organisé une conspiration, il l'a frappé devant le peuple, il l'a fait mourir, il a régné à sa place. Et on en parlait dans le livre des Chroniques des rois d'Israël que nous n'avons plus. Et ça, en fait, c'était le dernier des descendants du roi Jéhu. Dans 2 Rois 10, 30, on a vu que Dieu avait voulu honorer Jéhu parce qu'il avait supprimé l'idolâtrie de Baal. Et l'Éternel lui avait dit « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, que tu as fait à la maison d'Achab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération siégeront sur le trône d'Israël. » Et là, encore une fois, vous pouvez faire confiance que ce soit bien pour vous ou mauvais pour vous, vous pouvez faire confiance à la parole de Dieu. Ce que Dieu déclare, il va l'accomplir. Ne vous y trompez pas, nous dit Paul dans Galates. On ne se moque pas de Dieu. Si vous semez pour la chair, vous récolterez la corruption. Si vous semez pour l'esprit, vous recevrez la vie éternelle. Dieu, ce qu'il dit, il le fait. Et encore une fois, trop souvent, on prend la patience de Dieu pour du laxisme ou du laisser-faire. Et on a tendance, comme Jéroboam II, à se dire que tout va bien, donc ça veut dire que Dieu n'a pas regardé notre péché, que ce n'est pas si important et qu'on peut continuer. Non. Il avait promis, là c'était une bonne chose et une mauvaise chose pour le fils de Zacharie, mais qu'il garderait 4 rois sur le trône d'Israël à la suite de Jéhu. Et c'est ce qu'il a fait avec les 4 rois dont nous venons de parler et dont Zacharie est le dernier. Le dénommé Shalom, lui, il a régné qu'un seul mois. Il a régné la 39e année du roi Ozias à Juda. Et lui, il a régné seulement un mois. Et il y a quelqu'un, Menahem, un autre révolutionnaire qui est monté de Tirsa et qui l'a frappé, qui l'a tué. Il le fit mourir, verset 14, et régna à sa place. Le reste des actes de Shalom, vous pouvez les lire dans un livre que nous n'avons plus. Et peu importe, en un mois, il n'a pas dû trop faire de dégâts, on espère. Il a continué malheureusement dans l'agonie du royaume du Nord. Menahem, il frappa Tipsa, une ville, et tous ceux qui s'y trouvaient avec son territoire depuis Tirsa, la ville d'où il venait, parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes. Il y avait de la résistance, et donc ce conspirateur, cet imposteur, ce gars qui a pris le pouvoir, encore un coup d'État, il a frappé la ville de Tipsa parce qu'elle avait refusé de se rendre et de se rallier à son règne. Et il fendit toutes les femmes enceintes. La version à la colombe nous rajoute un petit détail qui n'est pas dans le texte. Il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. Qu'on rajoute l'explication ou qu'on ne la rajoute pas, c'est quelque chose d'abominable, c'est quelque chose qui nous révulse, j'espère, de voir l'horreur, le peu de respect pour la vie qu'avaient ces rois. Et là encore, on peut remercier les valeurs judéo-chrétiennes pour le respect de la vie qui a été instillé dans le monde occidental. On nous conseille d'éviter certains pays en tant que touristes. Généralement, c'est parce que ce sont des pays où les valeurs judéo-chrétiennes n'ont pas instillé un respect pour la vie. La vie, c'est quelque chose qui est pris, qui est repris. C'est pas une valeur essentielle. Et malheureusement, dans notre monde occidental, on voit que maintenant, avec l'avortement, il n'y a plus vraiment de respect pour la vie. Il y a des incohérences. On peut tuer un enfant quelques centimètres avant le passage dans le canal de la naissance. Après, Dieu merci, c'est encore un péché, puni par la loi. Mais de plus en plus, par confort, on va exterminer des enfants. Et on fait croire aussi aux mamans qui sont confrontées à ces situations que c'est la solution de facilité, la solution naturelle, la solution respectable, que l'avortement, c'est juste un petit moment, et qu'après on peut reprendre sa vie normale, ses études, son travail. C'est aussi un mensonge parce qu'on sait que les psychologues sont sérieux, sont les premiers à dire que ça cause de graves perturbations dans l'esprit, dans la vie future d'une femme, de savoir que ces enfants qu'elle voit courir, elle pourrait en avoir un qui lui appartiendrait, entre guillemets, qui serait à elle. Et encore une fois, c'est pas Dieu pardonne si nous confessons, mais ne disons pas que ce n'est pas un péché, c'est un péché. Tout ce que je vous dis là, ça serait probablement, je pourrais aller en prison pour ça. Il suffirait que quelqu'un de mal intentionné reprenne ses paroles et me cherche des ennuis. Je, devant les cours de loi en France, je pourrais être ennuyé. Mais la Bible ne dit pas que le pécheur est indigne de pardon, elle dit que le pécheur doit reconnaître son péché. Et je sais que parmi nous, il y a sans doute des femmes qui ont dû avoir recours à l'avortement. Et Dieu ne vous condamne pas pour ça. Dieu vous condamne pour le péché qui est dans vos cœurs, Dieu me condamne pour le péché qui est dans mon cœur, mais si nous lui demandons pardon, il nous pardonne. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on fait croire à ces jeunes femmes, aux frais des contribuables, que c'est la solution naturelle et bonne que de faire cela. Il faut donc être très prudent, montrer de la grâce et proposer des solutions à ces mamans, futures mamans. C'est une chose de s'indigner et de rester le cœur dur, mais c'est une chose de s'indigner et de leur dire « Mais tu peux faire adopter ton enfant, nous t'aiderons pendant ta grossesse, nous t'aimerons et nous aimerons ton enfant et Dieu a de bons plans pour lui, il l'a créé, c'est pas un hasard cosmique, c'est pas le hasard des rencontres. » Et ce Shalom, il avait donc montré l'horreur c'était Menahem maintenant, qui faisait mourir les femmes enceintes de la façon la plus détestable, la plus cruelle. Et il est ensuite question du règne de Menahem. Lui, il a régné 10 ans. Il a fait aussi ce qui est mal. Et puis lui, il a la nouveauté, entre guillemets, c'est qu'il a essayé de se ménager les grâces du roi d'Assyrie, de l'empereur d'Assyrie. Ici, il s'appelle Poul, on verra qu'il est appelé plus loin Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie, et il lui donne de l'argent. Il donne cette richesse, il lui donne près de 25 millions d'euros pour essayer de se donner la faveur de ce roi. Il fait payer ça aux plus riches. 50 cycles d'argent chacun, c'est pas une somme importante. Ça, un cycle, c'était 11 grammes et quelques. Donc 50 cycles d'argent, c'était à peu près 420 euros. Et on peut faire le calcul pour rembourser la somme de 25 millions d'euros. Il fallait un certain nombre de gens riches dans le pays. Peut-être que ce n'étaient pas tous les plus riches. Les plus riches étaient certainement partis à Londres déjà. Le reste des actes de Menahem est décrit dans cet autre livre dont nous avons parlé. Le roi d'Assyrie a arrêté de son invasion. Il venait pour envahir et l'autre, en lui donnant l'argent, Menahem l'a arrêté. Il a été suivi pour un roi Pekahia qui n'a duré que 2 ans. C'est son écuyer, c'est-à-dire son assistant, celui qui amenait son cheval pour le faire monter, son aide de camp, on dirait aujourd'hui, qui s'appelait Peka, qui était le fils d'un dénommé Remaliaou. Encore une fois, tous ces noms, ça peut paraître un peu redondant, difficile à prononcer, impossible à lire. Ça montre que ce sont des événements historiques. Ce n'est pas des inventions de l'esprit, ce n'est pas des Mickey Mouse et Dingo, ce n'est pas des contes de fées, ce sont des faits historiques. Et cet homme, Il a frappé Pekaïa. L'avantage, c'est que le nom était plus facile à prononcer. C'était deux syllabes seulement. Péka, maintenant, c'est impeccable. Il le frappa à Samarie. Il a aussi tué Argob et Arié. On ne sait pas trop qui c'était. Peut-être des fils de Pekaïa. Et il a régné à sa place. Donc c'était facile si on voulait prendre le pouvoir. On ne faisait pas une campagne électorale. On faisait une conspiration. On s'assurait qu'on pouvait tuer le roi sur le trône et on prenait sa place. Et puis, le roi Péka, lui, il a duré une vingtaine d'années. Il a régné là. Et il est question à ce moment-là du roi Tiglath-Pileser, le roi Poul, le roi d'Assyrie. Il a pris une grande partie du territoire. Il a pris la Galilée. Si vous n'êtes jamais allé en Israël, la Galilée, c'est un peu le jardin d'Israël, de l'État d'Israël. C'est là que poussent les fruits, les cultures. Et puis, tout le pays de Naphtali, c'est toute la Galilée. Il a déporté les habitants en Assyrie. On voit la fin se précipite. L'invasion d'Assyrie arrive. Et c'est un fils d'Ela, Osée, qui a formé une conspiration. À son tour, il a pris la place du roi d'Israël. Et puis brièvement, on parle du roi Jotham, on revient en Juda. Et le fils d'Ozias, c'est un dénommé Jotham qui avait pris sa suite lorsque Ozias avait été frappé par la lèpre. Et lui, il agit en tout point comme avait agi son père. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Encore une fois, il a fait de bonnes choses. Il était un des bons rois d'Israël. Mais toujours, ces lieux où il se pratiquait l'idolâtrie n'ont pas disparu. Et il est dit, on y reviendra la prochaine fois, que l'Éternel commença à voyager contre Juda, Retsin, le roi de Syrie, et Péka, le fils de Remaliaou. La Syrie et Israël s'organisent pour lutter contre le royaume de Juda, car il y a la menace assyrienne. Ça devient de la géopolitique. Mais toujours ce problème. Même si ces rois essayent de faire ce qui est bien, même s'ils n'entretiennent pas eux-mêmes l'idolâtrie, mais s'ils laissent l'idolâtrie subsister autour d'eux, le ver reste dans le fruit. Et ça, c'est un avertissement solennel pour chacun de nous aussi. Ne faisons pas de compromis avec le péché. C'est facile à dire, c'est souvent dit plus difficile à faire parce qu'on n'est pas toujours conscient qu'on fait des compromis avec le péché. On parle de nos péchés habituels, on parle des péchés sur lesquels nous n'avons pas la victoire, mais en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Nous n'avons plus d'excuses pour pécher. Si nous nous laissons aller au péché, c'est parce que nous le voulons bien, nous le tolérons, nous laissons ces hauts lieux subsister dans nos cœurs. Et je suis sûr que, comme moi, vous ne voulez pas qu'on dise « Il a fait comme les bons rois, toutefois, il laissa l'idolâtrie subsister dans son cœur. » Amen. Prions. Seigneur, tu vois combien ces vieilles histoires nous ramènent à aujourd'hui, Seigneur, à nous-mêmes. Je vois combien je peux tolérer le compromis dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur. Et je vois combien cela te déplaît, que même si tu peux nous utiliser, tu peux m'utiliser pour ton royaume, tu ne veux pas dire par les bonnes choses qui peuvent être autour de moi, Seigneur, que tu es complètement satisfait de ma vie, Seigneur. Donne-nous à tous la victoire sur le péché, Seigneur. Donne-nous d'être vigilants, de veiller et de prier comme tu le faisais dire par ton fils Jésus. Car l'esprit veut, mais la chair est faible, Seigneur. Notre ennemi de toujours, l'ennemi ne le sait que trop bien, qui vient nous mentir au bon moment, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous rappelle à l'ordre tout de suite, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à nous tourner vers toi pour avoir la force de dire non au péché, Seigneur. Nous te remercions pour l'histoire de ces rois, consignés malgré eux, bien des fois, dans les pages de l'Écriture, Seigneur, parce qu'elles nous servent d'instruction, Seigneur. Aide-nous à retirer l'instruction que tu veux pour chacun de nous, Seigneur. Et ma prière ce matin, c'est que tu parles à chacun de nous, à moi, Seigneur, pour nous montrer les domaines où nous ne sommes pas dignes de te voir régner dans nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à faire place nette, à ne pas nous attacher au péché, à ne pas permettre le compromis. Seigneur, tu nous dis de ne pas nous attacher, d'être attelés avec ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tu nous dis de nous méfier des attelages disparates, Seigneur. Des amis qui se moquent de toi, des petits amis, des petites amies, des fiancés même, peut-être que nous pouvons avoir qui ne t'appartiennent pas. Des alliances dans les domaines de notre vie intime ou notre vie comme gagne-pain, Seigneur. Tu nous dis que la lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Aide-nous à vivre dans la lumière, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Amen.